samedi. Présentement, à Québec, c'est 16 degrés.
Ben, c'est ça.
Juste une petite précision, parce qu'un auditeur nous texte là, concernant les spectacles au stade Canac. Il dit des shows de même, là, ça va pas scraper le revêtement du stade, les games de baseball, là, avec autant de monde, des déchets, des gorgées de bière, des affaires. Je serais assez surpris. J'ai quand même fait raide, là, un synthétique, normalement.
Oui. Puis ça s'entretient, puis ça, ben, tu sais, la pluie lave naturellement.
Puis mettons des gens qui marchent dessus. Pour aller à un show, c'est pas comme du sport qui se joue dessus avec des souliers à crampons. Non, non, ça magane bien plus, dans le fond, que des gens juste debout.
Tu regardes le terrain de football du Peps, s'il y a un type de pas qui peut le briser un terrain, ben oui, c'est ça, mais là, c'est très résistant.
Sauf que la question est bonne, puis en plus, moi, j'ai joué au flag football sur ce terrain-là, et tu sais, c'est vraiment fait pour du baseball. C'est fait pour glisser.
Mm-hmm. T'as joué sur la plateforme de sable, là?
Ben, c'est-à-dire que...
Ou en arrière, dans le gazon?
Il y a comme le dôme, là.
Ouais.
L'hiver, là. Puis, je me semble que le dôme, il est juste à côté du sable, là, tu sais.
Ben, il n'y a pas de sable.
Il n'y a plus. Ben c'est peut-être pour ça.
L'avant-champ, il est en synthétique aussi. Il est juste une couleur différente. On a mis couleur sable.
Il n'y a pas un sentier...
C'est en synthétique.
Depuis quand il n'y a plus de sable du tout?
Ben, depuis qu'il est en synthétique.
Puis le monticule, ça s'enlève, ça?
Oui.
C'est ça, il enlève le synticule.
OK, mais depuis quand c'est en synthétique? Si ma question est depuis
trois
quand?
Ans.
OK, donc j'étais vraiment en retard dans les nouvelles. Ça avait l'air du sable, puis je me disais, oh, du sable.
Puis c'est fait pour que ça glisse.
Oui, il y a différents types de gazon.
De synthétique. Puis, tu sais, vu que c'est pour la balle, c'est fait pour que les gars puissent glisser à un but. Puis, c'est vraiment fait pour ça. Donc, il n'y a pas de petite bille noire.
On va se coucher moins niaiseux.
Fait que ça glisse en. Ta Burslack, ouais. Ils font plus les ligues de flag football d'ailleurs sur ce terrain-là. Parce que ça, c'était un non-sens, c'était absurde. Là.
Les belugas glissants.
On se fendait, là. Tu sais, parce qu'au flag football, c'est comme au football, tu fais des tracés de football, ouais. Là. Fait que tu fais des changements de direction secs. Okay,
donc, vu que ça glisse, c'était trop difficile.
On se casse la gueule à chaque fois. 10 fois par game. Mais
vous trouvez des crampons, oui.
Oh oui, bien sûr, on avait des crampons.
Même avec les crampons, écoute,
c'était tellement glissant. On finissait les coudes, les genoux en sang à chaque game parce qu'on se pétait la gueule.
Ça brûle.
C'était vraiment malade.
Ça brûle.
Oh, tu brûles,
ouais.
C'est ça. Ouais. Ça fait que, mais pour répondre à l'auditeur, je ne penserais pas que ça brise.
Mais en plein été, moi, j'ai déjà joué au Peps dans le temps où il y avait des granules de caoutchouc là, pour séparer des grains de gazon puis faire un sol qui est un peu plus moelleux, si on veut. Mais d'abord, tu te retrouves avec des granules partout à l'intérieur de ton uniforme. Mais,
oui.
Mais en plein été, nous autres, moi, j'ai joué 2 ans dans le football senior. C'est une ligue d'été. Fait que quand il fait 25, 26, 27 degrés, là...
Il fait chaud.
Il fait chaud, tu dis?
Ah oui, ça accumule la chaleur.
T'as l'impression de jouer sur l'asphalte. Là.
C'est asphalte?
Oui. Par contre, j'ai joué aussi un jour de pluie. On appelait pluie battante toute la journée. Puis moi, j'étais batteur. Et comme on jouait pas avec 2 douzaines de ballons, on jouait à peu près toujours avec le même ballon. Le ballon venait détrempé. Il était lourd comme une roche. J'avais l'impression de frapper, de botter une roche.
Ah, mais il se gorgeait d'eau, ça veut dire?
Ben oui.
Wesh.
Oui, wesh.
Et là, tu le bats de toutes tes forces, puis il tombe 10 pieds plus loin.
Ben, à peu près, là.
C'est parfait, ça.
Tu foules la cheville.
Ouais, de 2 orteils de cassé. Ouais.
Hey, êtes-vous curieux de savoir ce qui s'est passé un 29 juillet dans l'histoire?
Ah ouais, non, toi.
Hey, t'as chose. Ça veut dire ça, toi, chose.
C'est un 29 juillet de l'an 1836 qui est inauguré ce monument mythique de la ville de Paris sur la place de l'Étoile à l'extrémité ouest de l'avenue des Champs-Élysées.
L'ARC de Triomphe.
L'Agence du revenu du Canada de Triomphe.
Oui.
Ne pas confondre avec l'Arche de Triomphe, qui est juste rien, dans le fond. Là. L'Arc de Triomphe, qui est un rond-point spectaculaire. C'est genre 6 voies de mémoire.
12.
Là.
Oui. C'est 12. Il y a 12 avenues qui arrivent à l'Arc de Triomphe, à l'Étoile.
Ouais, autour.
Oui.
Mais la largeur.
Ah, la largeur, oui. C'est une douzaine aussi. Ben, je peux vérifier.
Vérifie donc qu'on ait le bon chiffre. Je ne veux pas m'assiner sur la base de rien, là. Mais.
Quoi?
Ouais, d'habitude, je sais que je le fais, mais là, c'est parce qu'on peut le savoir, là. Mais là, on a une réponse pas loin, c'est sûr, là. Parce que j'ai pas compté le nombre de voies, mais j'ai déjà été en char pogné dans la place de
Paris. Pour vrai? T'as fait combien de tours, t'en rappelles-tu?
Je pourrais pas te dire.
Approximativement.
Mais c'est pas moi qui conduisais.
Okay.
On était avec un Parisien, c'est pour ça qu'on se disait c'est normal. Parce qu'on était, c'est un ami de ma sœur, ou en tout cas un ami d'un ami, je sais pas trop.
On avait été mis en contact. C'est pas ligné. Je regarde sur Google Maps, là, avec la vue satellite, puis il n'y a pas de ligne. Mais il y a de la place, il y a de la place pour une dizaine de voitures, certains en largeur.
Bon, ça, c'est l'estimation erronée de Vez.
Clairement. Six, c'est biaisé, là.
Mais en tout cas, ça pour dire qu'il y avait ce gars-là, il restait en banlieue, mais ils avaient dit je vais vous amener faire un tour, découvrir Paris en voiture le soir, c'est super le fun, vous allez voir. Parfait. Fait qu'on embarque dans son petit char style Mr. Bean, là, tu sais.
22 mètres de largeur.
22 mètres de largeur.
22 donc, mètres, tu calcules un mètre et demi à peu près par voiture.
Ben non, tu calcules pas un mètre et demi par voiture. C'est ce que tu dis là.
Mais combien?
Tu calcules un mètre et demi. Deux mètres et demi.
Ouais, c'est ça. 2 mètres et demi. 22 divisé par 2 mètres
c'est
et demi.
C'est 10. Un peu moins que 10. Non, c'est moins que 10.
Fait que ton ami
parisien. J'ai dit 6, toi t'as dit 10, finalement on va arriver à 8. C'est ça qui va arriver, maudite affaire. 22 divisé par 2 mètres et demi, ça fait 8.8. Le chiffre c'est 8.8.
En tout cas. Ton ami parisien était finalement très mauvais conducteur.
Non,
c'était pour vous faire visiter, c'était un tour guidé. Là.
Il était excellent. Parce que justement, lui, il était habitué de chauffer à Paris. Là. C'est deux mondes complètement différents. Conduire à Paris puis conduire à Québec, là, c'est juste pas la même. C'est pas les mêmes règles.
On est pas surpris.
C'est pas le même code. Fait que là, il nous amenait dans une petite rue, puis nous, on a l'impression qu'il chauffe à une vitesse folle parce que il chauffe à la même vitesse que nous autres. C'est juste, nous, nos rues, comme sont 5 fois plus larges, on chauffe à 50, 60, 70. Lui, il chauffe à 50, 60, 70, mais dans des petites rues.
Des ruelles.
Mais c'est tout des sens uniques avec des lumières pour les piétons, des affaires. Fait que c'est normal de rouler à cette vitesse-là. C'est vraiment juste parce que nous, on n'est pas habitués. Fait que là, il clenchait les ruelles, puis nous autres, on était comme, OK, bon, ça se pourrait qu'on meure ici. Puis là, à un moment donné, on sort d'une ruelle, vire à gauche, vire à droite. Puis là, l'arc de triomphe qui apparaît devant nous, hey, c'est bien hot, c'est spectaculaire. Puis il passe, puis il se met à tourner autour de l'arc de triomphe, mais en pesant sur le gaz. Fait que là, on est tout à côté dans la porte extérieure, puis ça vire, puis il a fait 3-4 tours de même d'arc de triomphe. On avait un peu mal au cœur.
Mais tu voulais une visite, t'en as eu.
Et voilà.
Finalement, il nous a fait descendre les Champs-Élysées, puis je sais plus trop ce qui nous a ramené, mais. Ouais, je me souviens d'avoir fait le tour.
Ah, tu étais malade?
Non, j'aurais pu. J'aurais été capable.
Finalement, ton ami, c'est un forain.
Non, mais c'est un fucké. ensuite de ça, 29 juillet 1907.
C'est toujours la date,
1907. Création du premier camp. De cet individu qui invite des jeunes de sa ville là, à transmettre des messages à pied et à vélo comme observateur, sentinelle et éclaireur pendant la guerre des Boers. C'est la pire description que
de pas mal.
On est supposé savoir ça.
La guerre des Boers, c'est où dans ça? Je me souviens même plus.
C'est un individu qui a 50 ans, qui organise un camp de 15 jours avec une vingtaine de garçons de différentes classes sociales sur l'île de Brown Sea, et il y teste des idées de jeux d'éducation, ou en tout cas éducation par le jeu, d'indépendance et de confiance.
J'aime pas un quiz qui a pas de réponse
c'est tellement bizarre, là.
J'aime mieux que tu le dises.
C'est le premier camp scout.
Mon Dieu!
De Robert Baden-Powell.
Il y a plein de scouts qui répondaient.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, je viens d'aller voir les textos là.
C'est un Canadien.
Les scouts.
Baden-Powell. Moi, j'ai été dans les scouts pas longtemps, juste assez pour dire que la journée de Baden-Powell, je pouvais mettre mon petit foulard.
Oui.
Parce que c'est pour ça que je voulais être dans les scouts. Il y avait deux raisons. C'était à côté de chez mes parents, la maison des scouts. Fait que le vendredi soir, j'entendais qu'il se passait des affaires. Fait que là, j'avais dit à mes parents, je voudrais aller jouer avec eux autres. Elle dit, on va t'inscrire dans les scouts.
L'autre affaire, c'est que
ça faisait quelques années qu'à l'école, il y avait une journée où il y avait du monde qui mettait un petit foulard rouge. Puis là, il mettait les deux doigts de même, puis il disait, genre, parole de scout. Fait que là, moi, je voulais pouvoir faire ça, mais il m'avait dit, non, tu peux pas tant que t'es pas dans les scouts. Just watch me.
Ouais. Mais t'étais peut-être dans les louveteaux, toi, à ce moment-là. Moi, j'ai été dans les louveteaux, mais je suis allé une fois.
Ouais, j'ai, mais
parce que mes deux frères
longtemps.
Avant moi, mes deux frères plus vieux étaient dans les louveteaux scouts.
J'aurais aimé ça, moi. Ça a jamais été dans ma vie. Puis même, j'avais pas d'amis, je pense, dans les scouts.
Il y avait des Jeannettes.
C'était pas
les
populaire, ça coûte de beaux prix, faut croire.
Nous autres, les scouts, c'était-tu rien que des gars? Je pense que oui.
Ben, je pense que parce que t'avais les scouts pour les gars puis les Jeannettes pour les filles.
C'est ça encore séparé comme ça, les scouts, si les gens qui nous écoutent connaissent ça, là, Baden-Powell, là. mais je suis pas resté longtemps dans les scouts parce que finalement, j'ai réalisé que c'est un peu... c'est drôlement fait comme structure, les scouts. Il faut d'abord... D'abord, mes parents, ils avaient été un peu nuls. Ils m'avaient acheté tout le kit de scouts au magasin scouts, mais ils m'avaient pas acheté le livre des prières. Puis le livre des nœuds.
Puis la promesse, la promesse scout aussi pour ton initiation.
Et pour être un scout officiel, il faut que tu fasses la promesse.
Ouais.
Pour faire la promesse, il faut que tu apprennes les nœuds et les prières. moi, j'avais pas le livre des nœuds et des prières. Fait que je peux pas les apprendre.
Bon.
Fait que là, à un moment donné, arrive le moment de la promesse. Puis là, moi, je regarde un peu ce qui se passe. Je comprends pas trop. Tu sais, puis j'étais autant dans l'une qu'aujourd'hui. Fait que, tu sais, sûrement qu'il m'avait parlé de ce qu'il fallait faire, mais je savais pas. J'avais pas écouté. Fait que là, comme de fait, là, les jeunes commencent à se présenter un après l'autre. Puis là, ils se mettent à réciter par cœur la promesse avec les deux petits doigts dans les airs. Puis là, moi, j'étais comme, je peux pas faire ça. Fait que j'étais pas allé. Je savais pas c'était quoi qu'il fallait dire. J'avais pas compris. Puis là, ils leur testaient, OK, fais le nœud coulant de bateau, de navire. Là, le gars, il est en dessus, dessous, tourne autour, en dedans, dessus, de, autour, en
il
dedans.
Il est prêt pour le voilier avec M. Brown, lui. Là.
Puis là, il fait son nœud.
C'est un peu le genre d'anxiété que tu fais quand t'es en classe, genre au primaire, puis tu réalises qu'il y a un oral que tu savais pas pantoute que t'avais à faire, puis t'es là, puis t'es. Oh mon Dieu, oh mon Dieu.
Primaire, secondaire, cégep, université, j'ai vécu ça toute ma vie.
Sauf qu'au scout, quelqu'un aurait pu t'aider. Dans ton horaire, c'est notre affaire. Là.
Ouais, mais là, l'affaire, c'est que justement, c'est ça, j'avais pas appris ces trucs-là. Fait que là, ça m'angoissait bien gros, la promesse, parce que je comprenais pas, je savais pas qu'il y avait un livre.
Ouais.
Fait que je comprenais pas comment qu'eux autres, ils avaient fait pour savoir, puis apprendre ça, puis moi, pourquoi je le savais pas. Ce bout-là, je le. Puis, il y a un système de parrainage avec les scouts. Quand t'es un louveteau, t'as un parrain, puis t'es en groupe de six, ils appellent ça des sixaines. C'est comme une douzaine, ouais. Mais t'es six, fait que une sixaine. Bon, ça, je sais même pas si c'est un vrai mot, mais je me souviens que c'était comme ça. Puis là, évidemment, puis là, moi, je voulais être avec mon ami Tom, puis il avait pas voulu de le mettre dans la même sixaine parce que non, on les sépare pour qu'ils se fassent des nouveaux amis.
OK.
J'ai toujours méprisé cette mentalité-là, mais c'est pas grave. Sauf que je me retrouve dans une sixaine avec mon parrain, c'est un gros dude paresseux, bizarre. Non. Hey, il s'en torchait, là.
Il voulait rien t'apprendre.
Il y avait des parrains qui étaient super hot, super impliqués, puis tu sais, qui suivaient leur genre de recrue. Pourquoi? Moi, mon parrain, là, il pouvait pas plus s'entorcher de moi, là.
Ouais, c'est sûr que quand t'es mis sacré. Avec quelqu'un qui te ressemble, ça peut être très mauvais parrainage.
Il s'en sacrait, là. Comme dans l'an 40. Et dans notre groupe de 6, donc, il y avait moi, mon parrain, un autre gars, son parrain, un autre jeune, puis...
Notre
cisonnier, qui était le parrain de l'autre jeune. Mais le cisonnier, ça, c'était comme le leader de la cisaine. Puis nous autres, notre cisonnier, c'était une espèce de trouillard épouvantable. C'était une poule mouillée.
Voyons, c'était juste un camp d'intimidation, finalement.
Non. C'était juste... Non, mais on avait fait... je raconte la version courte parce que je pense que j'ai déjà compté.
La longue.
Ah ouais, la longue est longue. On avait fait un camp, à un moment donné, le camp d'automne. Ça commence justement, il me semble, l'été, les scouts. Fait que là, le camp d'automne, c'est le premier camp, là. Puis tu sais, tu pars une soirée, puis un camp d'hiver, puis camp de printemps. Puis tu sais, tu pars toute la gang, puis ça. On était, je sais plus où, je devais avoir 9 ans. Là,
ben, au camp, 8, 9 ans.
Ouais, mais je sais pas c'était où géographiquement, là. Tu sais, c'était pas bien loin. Sûrement genre dans Lobinière, là, mais peu importe. Puis on était dans un grand hangar, puis on dormait tout assis avec nos. Assis à terre, c'est-à-dire avec nos tapis de sol, puis nos sleeping, parce que tu sais, ils t'apprennent justement. Un peu les notions de camping, ces choses-là. Puis là, j'étais équipé en tant que tel. Il a fait très froid cette nuit-là. Puis il avait laissé la porte comme une grosse porte de garage, un peu mal fermée, entrouverte. Puis moi, vu que j'étais arrivé en dernier, parce que à cause de mon cisanier, non, c'était à cause de mon cisanier, on était arrivé en dernier, on était tous cordés sur le bord de la porte, fait qu'on a gelé comme des crotons toute la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Pogné à la grippe. Puis le lendemain soir, on dormait là deux nuits. Le lendemain soir, l'activité, il appelait ça le tour de nuit. Il donnait genre une flashlight par sixaine. Puis là, il fallait qu'on parte en groupe de six dans la forêt se promener pour essayer de trouver... il y avait une histoire sûrement autour de ça, une thématique. Mais bref, l'activité, il fallait qu'on passe de moniteur en moniteur. Puis il nous donnait des indices, puis des mots. Puis le rendu à la fin, il fallait qu'on fasse la phrase. C'est une affaire de même. Puis il y avait d'autres moniteurs qui faisaient des bruits de loups. Il était bien loin. Il était bien loin. Puis faisait
juste
comme,
pour vous mettre en confiance.
Pour nous faire peur un petit peu.
Ben oui.
Mais tu sais, tout le monde était comme, ça va tellement être nice. On va aller dans le bois, il fait noir, on a une flashlight. T'sais. Il y a des cris
on
de loups.
On va voir des loups.
Non, mais tout le monde sait. Non, mais on a 8-9 ans, puis tout le monde est comme, ben oui, mais c'est un camp scout, c'est sûr là, qu'ils vont essayer de nous faire peur. Là, t'sais. C'était vraiment dans la culture des scouts, là, les loups, ces affaires-là. La seule personne qui voulait pas y aller et qui a fait une crise de nerfs pour ne pas y aller,
c'est toi.
Pleurait, c'est notre cisanier.
Oh, wow.
C'était notre leader. Il voulait pas y aller.
L'adulte?
Faisait... Non, le cisanier, jeune parrain cisanier. C'était un jeune, c'est juste, c'était quand même le chef de notre groupe de six.
Non, mais ça que ce soit toi ou ton
c'était
parrain.
C'était leader. Mon parrain, la première affaire qu'il a faite quand. Je m'en souviens encore, je le dirais pas, mais je me souviens du prénom du cisanier. Puis mon parrain, quand le cisanier s'est mis à pleurer pour faire sa crise, il a dit oh, mais c'est pas grave, ça te dérange pas si on n'y va pas. Là, moi, j'étais comme, mais vous me niaisez-tu? Je peux-tu y aller avec un autre sixaine? Moi, je peux-tu. Non, faut, on se tient, faut être soudé, la sixaine. Puis, Fait que là, on avait passé une heure à essayer de convaincre les petits trouillards qu'on voulait aller dans le bois. Ils voulaient rien savoir. On y est pas été? On y est pas été? On n'a jamais réussi.
Oh, c'est ça que si vous dites, groupe heureux, gros trouillard.
Et... Non, mais on faisait pas ça, là. Je veux dire, le moniteur était avec nous, puis il était comme, OK, on va essayer de l'encourager, puis il faut le convaincre. Puis vous y allez à 6 ou vous y allez pas. C'est, tu sais, il essaie de t'inculquer un peu ces valeurs-là. Hey, finalement, on s'était fait chier. J'avais détesté ça. Je m'étais dit, hey, là, j'avais demandé de changer de sixième. Ils ont jamais voulu. J'ai dit, parfait, ciao, bye.
C'est terminé.
Fuck off, Baden Powell. Mais quoi que bon, je remets pas en question tout le mouvement scout. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, pis c'est vraiment parfait, là. Mais moi, là, mon expérience s'est arrêtée après le camp d'automne. J'ai voir mes parents. J'ai dit, ils peuvent bien faire le prière pis le nœud dans le parking de l'école Marguerite Dioville. Je veux rien savoir.
C'est plate.
Ouais, fait que finalement, je suis plus des scouts. Mais maudite affaire.
Mais c'était une longue carrière?
Ben, j'ai des amis qui sont encore là-dedans. Fait que, regarde,
encore?
Oui. Ben oui, ben ils sont continuent de s'impliquer comme moniteur.
OK, ouais.
Comme. Non, non, ils ne sont pas louveteaux à 30 ans.
Près de la trentaine, tu peux être encore moniteur.
Je pense que tu peux l'être longtemps. Il y avait un bonhomme.
Bonhomme.
Ouais, mais lui, il était plus.
Il n'a pas été accusé?
Je penserais que oui, là.
Il y avait un bonhomme.
Il y avait un bonhomme qui amenait des enfants à son chalet.
Ah, come on. Ah oui, il y a eu ça dans l'actualité.
Mais c'était lui qui était dans. Quand moi, j'étais dans les scouts, lui, c'était le chef des scouts de ce.
La vie fait bien les choses.
Ce régiment de scouts-là.
Que t'as lâché rapidement.
Ouais. Mm. Oh, ouais. Il amenait des enfants à son chalet. C'est vraiment l'espèce de stéréotype. Puis encore là, je veux vraiment faire attention parce que. Tu sais, c'est vraiment des belles valeurs, le mouvement scout. Je sais qu'il y a des gens qui sont tellement dévoués puis qui font ça pour les bonnes raisons. C'est l'écrasante majorité, là, on s'entend. Mais factuellement, ce bonhomme-là, il était là quand moi, j'étais scout, là. Tu sais, fait que, en tout cas. À part de ça.
Ben oui.
29 juillet. Tout ça pour dire que j'ai passé le 29 juillet, le premier camp scout.
Il s'en passe-tu des affaires pareilles?
La fois qu'on a eu fret puis que mon gars, il pleurait. 29 juillet.
C'est bon. On a compris.
1958, Vez.
Oui.
Après avoir été critiqué pour avoir permis aux Soviétiques d'avoir devancé les États-Unis en envoyant un satellite dans l'espace, le président Dwight D. Eisenhower signe la loi instituant la National Aeronautics and Space Administration.
La NASA.
La NASA. Qui remplace la NACA. National Advisory Committee for Aeronautics.
Aeronautics.
C'est ça.
Aeronautics.
Merci. Question quiz. Comme si c'était un peu la même affaire, là. Qui est le plus âgé entre l'auteur Luc Dionne et le chanteur-animateur Jean-François Brault?
Ben, là, ça va être Jean-François parce que c'est ça la trappe.
Qui est le plus vieux entre Luc Dionne et Jean-François Brault?
Luc Dionne.
Moi, j'aurais dit Luc Dionne, là, mais...
Puis là, tu vas nous dire que son
la trappe avec M. Brault.
Je vais aller dans la même direction que Pascal, là, sinon tu ne poserais pas la question.
Ils sont nés le même jour, la même année.
Et voilà! Bonne fête!
Bonne fête!
Ben, bravo!
Le 29 juillet... 1960. Ça fait que ça voudrait dire que oui. M. Dionne là, pour faire attention à sa santé.
Jean-François Brault?
Pas vrai.
Es-tu sûr?
Le chanteur? Mais non, ça marche pas. Il est pas 60 ans. Là.
Il a bu dans la fontaine de Jouvence, non?
Jean-François Brault, 1960, c'est vrai que ça fait aucun
ça
sens.
Ça ferait 61 ans. Non, il n'y a pas 61 ans, Jean-François Brault, ça marche pas.
Ça se peut pas.
Hein? Il a 43 ans!
Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Alcide, le gars des éphémérides.
Il est né le 29 juillet, mais 1978. C'est juste que c'est leur anniversaire en même temps.
Je vais quand même prendre le temps de
retourner sur
le
site. Mais pas la même année.
Juste pour voir à quel point je suis.
C'est pas comme Mario Lemieux puis Patrick Roy qui sont nés vraiment la même journée.
François Brault à 60.
Ah non, mais j'ai pas calculé, là. J'ai pas.
C'est ça, il est de la ceinture.
Tu l'as pas calculé.
Il y a du Botox.
J'ai pas fait le calcul, là.
Comment? Mais là, quand tu vois que c'est pas la même année, monsieur Raphaël.
C'est gênant, ça, pareil. Attends un peu.
C'est sûrement une faute de frappe, là.
Ouais,
ça, c'est tordant, Jean-François Brault à 60.
Le gars des éphémérides avait une faute de frappe. Moi, je l'ai copié-collé sans même réfléchir, là. J'ai vu les deux, ils ont le même âge. Gars! Pas fou? C'est écrit quoi?
Je vois rien de là, là. Je vois Jean-François Brault avec une guitare puis un genre de petit bracelet de cuir.
Le chiffre en haut, 1960.
1960.
Mais j'avoue que ça ne fait aucun sens.
Come on!
Ah, en tout cas, fait que tout ça pour dire que je l'aime bien, ce gars-là.
Ouais, on voit ça.
Et le pire, c'est que... Ah non, ça, j'ai déjà raconté. 1966! Qu'est-ce qui est arrivé à Bob Dylan en 1966?
Il a chanté.
Un 28 juillet. Non, il a pas chanté pas en tout.
Une overdose.
Il s'est fait Bob Dylan.
Tiré.
Il a pas eu d'overdose, il s'est pas fait tirer. Il est arrivé un événement malencontreux avec la Triumph Bonneville.
Il a fait un accident.
Il a fait un accident de moto. qui l'a envoyé à l'hôpital, multiples fractures aux vertèbres du cou. Il est resté dans un état critique pendant une semaine. Et pendant ce temps-là, il est resté alité pendant un mois. Quand même un accident très sérieux. Mm-hmm. Et il est resté hors de la scène pendant 2 ans. Et en raison de ça, là, les complots se sont mis à fuser de partout. Les fans sont mis à lancer toutes sortes de rumeurs comme quoi là, il était mort, il était viré fou. Il y en a qui disaient qu'il avait été kidnappé par la CIA.
On peut l'aider.
Mais en fait, il était juste dans son sous-sol en train d'écrire des tunes.
Mais c'est impressionnant, par exemple, là, parce que il y a beaucoup de photos de Bob Dylan dans le temps, tu sais, des posters et tout ça, qui est à moto, mais il y a souvent pas de casque. Je sais pas s'il en portait un.
Bob Dylan, qui est, on le sait pas, mais je vais vous l'apprendre ce matin, a le même âge que Jean-François Brault.
Oh, come on! 70 ans et quelques, là, oui.
1971, un 29 juillet, la famille Holland offre le Blue Nose 2 à la province de la Nouvelle-Écosse comme musée maritime flottant. Et pourquoi est-ce qu'on connaît le Blue Nose 2?
Parce qu'on le retrouve sur le dos des pièces de
10 sous! Bravo, Vez. Tu vois comment la foule est en délire.
C'est incroyable. La foule est debout et s'en va.
Les gens dans le char sortent de le char.
Ça klaxonne.
Ils parlent le char au milieu de la rue là, puis ils sortent pour applaudir.
C'est pas game à une personne d'appuyer sur le klaxon. Merci.
Le Blue Nose 2, effectivement, qui est un
s'il y a un accident, Pascal.
S'il y a un accident, on dit.
Un accident.
Je sais pas si c'est pas... Es-tu venu à Québec il y a quelques années pour le 400e,
oui,
peut-être?
Non, c'était pour les grands voiliers, dans le fond, là, qui ont fait il y a 4 ans.
Ouais. Il
y a eu un autre événement des grands voiliers, mais c'était, je pense, c'est une réplique du Blue Nose 2.
Ah, ça se peut, oui.
Puis je devrais le savoir parce que la personne...
Parce que t'as un 17 dans tes poches.
Non, parce que la personne qui était sur le Blue Nose 2 lors de l'événement...
C'était Jean-François Brault.
Pour faire l'espèce de présentation aux visiteurs qui étaient là, c'était moi. Ça fait que je devrais m'en souvenir.
Tu devrais, mais là...
Je serais supposé de savoir si c'était une réplique ou si c'était le vrai.
Toi, tu donnais l'information.
Moi, j'étais là pour faire la présentation. Dire, vous êtes présentement sur le Blue Nose 2. Ce bateau-là a vécu telle affaire, t'es construit telle année, a appartenu à tel gars. J'avais tout appris sur le Blue Nose 2 et j'ai rien retenu.
Ça, c'est comme ton parcours scolaire.
Mais c'est drôle, cette compagnie-là d'événementiel ne m'a jamais rappelé non plus.
Ah, il y a peut-être une raison.
Surprenant.
Je pense que c'est parce qu'ils n'organisent plus d'événements.
Ah, vraiment, ils ont fait faillite.
Je vois pas d'autres...
Ils pouvaient plus reproduire le succès monstre que tu avais réussi à faire.
Ah, je pense qu'ils ont dit, on va prendre notre retraite. On peut pas battre ce qu'on
une fois que tu as réussi... Là,
ça fait que, ouais, je pense pas, mais en général, les quelques contrats d'animation corporative que j'ai eus, ils m'ont tous jamais rappelé. Fait que je pense qu'ils ont tous fait faillite.
Ça doit être ça.
Je veux pas d'autres explications. 1985, Vez, 29 juillet, le Canadien nomme un nouvel entraîneur-chef.
85, c'est Jean Perron.
C'est Jean Perron, mesdames et messieurs.
Wow.
À la suite de la démission
de Jacques Lemaire.
Jacques Lemaire. Le poste d'entraîneur du Canadien de Montréal, donc, sera occupé par Jean Perron, qui était à l'époque...
Qui était l'adjoint de Jacques Lemaire.
On dirait que c'est Vez, le gars des éphémérides.
Donc, Jean-François Brault, à quel âge, Vez?
Ben, 60 ans.
Hey, je la trouve encore drôle, celle-là.
Ah, moi, je suis gêné.
Ils ont le même âge. En plus, tu fais un quiz.
J'étais mongol de voir 1960. Fait, hein, on dirait tellement. J'ai toujours pensé que Luc Dionne était plus vieux. Hein?
Puis là,
parfait,
un
je vais
quiz.
Leur poser la question. Hey. Ils vont tous tomber dans le piège.
Aïe, aïe.
Mais finalement, c'était moi qui étais calme, hein, quand on y pense.
Bravo.
2005. Ça, peut-être que vous n'aviez entendu parler. Pas moi, mais c'est vraiment du génie comme... comme histoire, comme anecdote. 2005, il y a une cargaison qui est portée disparue à la baie dans le fleuve. OK? Et...
À la baie dans le fleuve?
Ah, c'est une
dans le fjord.
Dans le Saguenay, oui.
C'est ça.
Dans le fjord.
Ouais. Dans le fjord. J'ai dit dans le fleuve, je voulais dire dans le fjord.
Une
dans
cargaison.
J'ai dit dans le fjord.
De le fjord.
Et donc, une cargaison. Quelle était cette cargaison?
C'était pas de la bière. C'était pas le test de bière qu'il avait fait.
Non,
puis à un moment donné, ils ont perdu les cages. Là.
C'est pas du fromage Boivin?
Ah! Oh, c'était dans la... Ah, oh, merde!
À la baie, le fromage Boivin continue de dérouter les plongeurs qui sont chargés de le faire remonter à la surface. Il semble que les barils qui contenaient 800 kg de cheddar se soient déplacés depuis l'an passé. Parce qu'en 2004, il avait plongé des barils de 800 kg de cheddar. Le but était de les entreposer à une cinquantaine de mètres sous la surface en vertu d'une nouvelle technique d'affinage qui avait été élaborée par la fromagerie Boivin. Sauf que le problème, c'est que les barils se sont déplacés.
Avec le courant.
À cause du courant. Et malgré les sonores à la fine pointe de la technologie, puis ils n'ont jamais été capables de retrouver les barils de cheddar. Hey, ça veut dire qu'il y a 2-3 poissons qui sont faits un fondu, quelque chose. Wow. Mais 800 kilos de cheddar.
Une poutine.
Presque une tonne de fromage qui est disparu dans le fleuve.
C'est peut-être quelqu'un qui est tombé dessus sur le bord de la plage.
C'est extraordinaire.
Hey, c'est mais j'avais la bière en tête parce que là, j'ai fait une petite recherche rapidement. Ils ont fait le genre d'expérience.
J'ai fait mes recherches.
Même genre d'expérience du côté des îles de la Madeleine, là, avec le plongeur et caméraman sous-marin Mario Cyr.
Oui.
Il avait fait virer de la bière au fond de la mer, au large des îles de la Madeleine. La bière de la microbrasserie à l'abri de la tempête. Là, pour ceux qui connaissent les bières, ils savent que c'est une excellente micro. Donc, c'est pour ça que j'avais ça en tête.
Ah bon?
C'est quoi cette idée de couler plein d'affaires? Non?
ils ont retrouvé les autres, leur cargaison.
Et enfin, dernier petit éphéméride pour aujourd'hui, 29 juillet de l'an 2015, là, c'est beaucoup plus récent, on fait un pas vers la route de l'avenir. La route, là, littéralement, la route sur laquelle roulent les chars.
Oui.
Puisque on lance donc un nouveau protocole. C'est une société néerlandaise qui s'appelle Volker Wessels qui lance un nouveau protocole là, de fabrication.
Ah, voiture auto-guidée, là?
Non, de morceaux de route en plastique.
Ah,
des
oui.
routes préfables, là, des routes préfabriquées. Ouais. Donc, ils fabriquent des tronçons en plastique qui est censé résister à jusqu'à moins 40 degrés Celsius, résiste à la corrosion et durerait 3 fois plus longtemps qu'une route d'asphalte de bonne qualité. Donc, 10 fois plus longtemps que nos routes ici parce que notre asphalte est de piètre qualité. Ça s'appelle Plastic Road. Ça se construirait et s'entretiendrait beaucoup plus rapidement et facilement que les routes d'aujourd'hui. Les travaux sont plus courts pour les poser. On mesurerait ça en quelques semaines plutôt que plusieurs mois, là, notamment, puisque c'est des tronçons de route que t'installes
en camion.
Ça arrive en camion, des routes empilées. Et donc, c'est ça, la clé, c'est vraiment le fait que les routes sont préfabriquées en usine, en segments modulaires. Mais bon, ça, c'était en 2015, et on n'a pas entendu parler. Ça fait que ça veut dire que c'est probablement pas parfait non plus. Mais est-ce qu'un jour nos routes seront faites en plastique? Je le sais pas. Faudrait quand même trouver un moyen de creuser des trous dedans parce que là, faudrait quand même qu'on ait quelques nids de poule. Là.
Ouais,
c'est, pas
sinon,
vrai que, c'est pas vrai qu'on va trouver une solution puis que nos routes vont tout le temps être lisses.
Et on est habitué.
Des plans qu'on s'endorme au volant.
On manquerait de photos du Journal de Québec avec quelqu'un dans un nid de poule.
De quoi on va parler dans le journal au printemps?
Voilà. Salutations à tous les journalistes.
Nos routes en déroute. Nos routes en déroute, Pascal. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos routes en déroute?
Non, la photo de Mireille dans le nid de poule, c'est elle qui va me manquer.
Le concours des pires routes du Québec, de CAA Québec, ils vont être obligés de congédier du monde, eux autres, là. Ils vont perdre des mandats. Non, 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 non. C'est pas une bonne idée.
On veut pas faire des choses de même.